rentré chez moi et j'étais fatigué. Quand j'ai poussé la porte, quand j'ai poussé la porte, mon coin et mon journal, des gestes usés, réflexes machinal. Mais la contre-jour est apparue et m'a dit: tu pourrais dire bonjour. Moi je me disais: hey Joe, faudrait pas y aller tout de go. Si tu fais le saut, juste un mot de trop. Mais j'ai joué au black jack comme quand j'ai tiré ma carte. Mes clics et mes claques et la porte qui claque. Elle boudait dans la cuisine, le nez plongé au fond d'un magazine. Un truc très compliqué, un genre de test de compatibilité. Quand mes plombs pétés, j'mords le fer de la pomme. J'mets en usine des mots qui assassinent et des phrases qui assomment. Elle m'a dit: j'suis pas prêt d'oublier, bonhomme. Tout en me répétant: hey Joe, fallait pas y aller tout de go. Quand t'as fait le saut, juste un mot de trop. Mais j'ai joué au black,
black
jack, comme quand j'ai tiré ma carte. Mes clics et mes claques et la porte qui claque. Et la porte qui claque. Et je sors dans le soir, juste un mot et me voilà seul. J'arrive pas à y croire, un mot de trop et c'est le deuil. J'aurais dû fermer ma gueule.
Hey Joe, fallait pas y aller tout de coup. Quand t'as fait le saut, juste un mot de trop.
Mais j'ai joué au black,
black
jack, comme quand j'ai tiré ma carte. Mes clics et mes claques, et la porte qui claque, et la porte qui claque. Je marche sous une pluie d'automne, le diable rit et l'ange me sermonne. Pendant que je me raisonne, pendant que je me raisonne. Et c'est pas évident, ça m'arrive, je sais pas pourquoi. C'est souvent plus fort que moi. Wap, un trou, une cheville, une feuille, une chenille. Et mes excuses qui s'envolent et s'éparpillent dans le vent. Juste un mot de trop.
Et voilà, c'était le titre de cette chanson, Juste un mot de trop, chantée par Luc de la Rochelière.
Concert à l'aveugle de l'OSM plongé dans le noir, éclairé par le son. L'idée de ce concert à l'aveugle est éclairante, maximiser l'expérience sonore en éliminant toute distraction visuelle. Sous la direction de Kent Nagano, l'OSM et les solistes invités Steve Hill, guitare électrique, Olga Gross, piano, Racham Allwood, orgue, André Moisan, clarinette, seront dissimulés derrière un rideau opaque. Demain soir, l'auditoire sera plongé dans l'obscurité La musique deviendra la seule source d'information à absorber. C'est un article d'Alain Brunet dans la presse pour amorcer les actualités culturelles. Un programme composite en étoffera le ressenti, furieux mélange de styles rock, baroque, romantique et contemporain. Comment au juste faire cohabiter Gyorgy Ligeti, Karlheinz Stockhausen, Jean-Sébastien Bach, Richard Strauss, Jimi Hendrix, Frank Zappa et John Anthony Lennon? La musique de Frank Zappa peut être considérée comme une transition, un pont entre le classique et le rock. Les autres compositeurs au programme ont aussi été choisis pour cette fluidité entre les deux univers, soutient le maestro Nagano, interviewé hier au sortir d'une répétition. Dans les années 60, reprend-il, Stockhausen était professeur invité à l'Université de la Californie. Il était devenu un artiste culte, une véritable inspiration contemporaine pour la communauté rock de San Francisco. Jefferson Airplane, Grateful Dead, etc. C'était pareil pour Ligeti. Pardon?
Je dirais peut-être Ligeti.
Ligeti, ben oui, c'est accepté. Alors, c'était pareil pour Ligeti, alors invité à l'Université Stanford. Énorme impact sur la musique populaire dans la région. On a tendance à oublier que sa musique fut jouée dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, tout comme celle de Richard Strauss. Fluidité entre les mondes du rock et de la musique contemporaine, mais encore ceux du baroque et du classique. Dans la Californie natale de Kent Nagano, Bach et Beethoven ont joui d'un indice élevé de coolitude. Dans les années 60 et 70, raconte le chef d'orchestre, il était très à la mode de porter des pulls à l'effigie de Beethoven. Durant cette même période, E. Power Biggs remplissait des stades et interprétait à l'orgue fantaisie chromatique et fugue en ré mineur de Bach, très prisé des Californiens férus de concerts rock. Et saviez-vous que Phil Lesh, bassiste de Grateful Dead, savait tout sur Beethoven? Kent Nagano rappelle en outre qu'il a déjà dirigé et enregistré Mo and Herb's Vacation, œuvre de Frank Zappa pour clarinette et orchestre, avec le London Symphony Orchestra. Amitié, admiration et collaboration tardive, souligne le musicien. Horrifié par les Mothers of Invention en les voyant à la télévision, ma mère avait interdit Zappa à la maison. Ayant obéi à cette interdiction, je ne l'ai vraiment découvert que plus tard, soit en visitant Pierre Boulez à l'IRCAM à Paris. J'ai réalisé qu'il avait entrepris de diriger une œuvre de Zappa. Étonné, j'ai ensuite contacté Zappa lorsque je suis rentrée en Californie. Il m'a alors invité à son concert, le premier concert rock de ma vie, dit Kent Nagano. Ainsi, Nagano avait pénétré dans ce domaine foisonnant et ludique qu'il évoquera demain avec une improvisation du clarinettiste André Moisan, inspirée de Mo and Herb's Vacation. Quant à Purple Haze, fameux hymne de Jimi Hendrix, Nagano l'a découvert à travers la fameuse relecture du Kronos Quartet, quatuor à cordes duquel il se dit encore très proche. En hommage au Kronos et indirectement à Hendrix, indique-t-il, j'ai choisi un arrangement libre et souple pour les cordes de l'OSM qui peuvent exprimer bien des choses au-delà du répertoire classique. Cela posé, le maestro de l'OSM se défend de faire dans la nostalgie des années 60 une décennie où tout n'était pas particulièrement beau. Assassinat de Martin Luther King, lutte pour les droits civiques, guerre du Vietnam, etc. Nenni, la nostalgie donc, voilà qui justifie la création d'une œuvre pour guitare électrique et orchestre signée John Anthony Lennon, The Electric Candlelight Concerto. Dans les années 80, mon ami David Harrington, directeur artistique du Kronos Quartet, l'avait identifié parmi les jeunes compositeurs émergents. Ce qui m'avait d'abord frappé dans sa musique, c'est qu'il n'y avait pas de grande rupture avec l'esthétique et la grande tradition européenne. Or, il fut moins visible par la suite, ayant choisi une carrière parallèle dans l'enseignement. Maintenant qu'il est professeur retraité, John Anthony Lennon se réinvestit à fond dans la composition. Guitar hero de la scène blues rock, le Québécois Steve Hill sera le soliste invité à la création mondiale de cette œuvre. Interviewé cette semaine, il y voit le plus grand défi de sa carrière en tant qu'interprète. « Lorsqu'on m'a approché, raconte-t-il, le cinquième mouvement n'était pas terminé. Je l'ai reçu en juin dernier et je le répète depuis. C'est contemporain, c'est complexe. Je sais lire la musique. J'ai reçu une formation musicale, mais de manière générale, j'écris des chansons. J'accompagne des gens. Je construis ma musique sur des progressions d'accords. Je n'ai pas à lire des partitions de ce type, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de travailler. Mais ça s'en vient. » On comprendra que Steve Hill a dû redoubler d'efforts afin de maîtriser cet Electric Candlelight Concerto en 5 mouvements, 3 pour guitare électrique et 2 pour guitare acoustique. Il y a quelques jours, j'ai eu une rencontre avec M. Nagano qui battait la mesure pendant que j'exécutais l'œuvre. Une expérience de grande humilité, rire entre parenthèses. Je m'étais habituée à la jouer avec un accompagnement préenregistré. Jouer avec cette main qui m'indiquait où j'étais rendu, pas évident. Heureusement, on m'a beaucoup aidé à l'OSM. Pour mieux saisir la partition, j'ai répété avec Adam Johnson, le chef assistant de l'orchestre. Ça m'a vraiment donné confiance. L'œuvre laisse-t-elle place à une part d'improvisation pour le guitariste rock? Dans le dernier mouvement, le compositeur m'autorise à improviser à la place de certaines lignes, mais il serait peut-être plus sage de m'en tenir à la partition. Je ne suis pas là pour faire un Steve Hill de moi, rire, mais je jouerai le tout à ma façon. Le plus important de toute manière est de rendre justice à la partition. Quant à l'obscurité annoncée à cette soirée de demain, le maestro Nagano explique son choix. Lors d'une rencontre de planification, relate-t-il, on se disait qu'il fallait à la musique classique plus de visualisation, plus d'images projetées derrière l'orchestre, plus de films, plus de vidéos, etc. J'ai eu alors la réaction inverse. Sans images, la musique classique peut aussi nourrir l'imagination. Lorsque j'étudiais, je m'enfermais avec mes confrères dans la salle d'écoute de la bibliothèque. On éteignait les lumières, on écoutait la musique. Ça provoquait des images fantastiques. Alors, le concert dans le noir a lieu demain, 21h, à la Maison Symphonique. Alors, une nouvelle d'un bébé à venir. Kim Lévesque-Lizotte a annoncé sur son compte Instagram qu'elle est enceinte de son premier enfant. En couple avec Éric Bruneau depuis 5 ans, l'humoriste et auteur de la série Les Simones lui a écrit ce message. « L'aspect vertigineux de te savoir dans ma vie pour toujours m'emplit de joie. La réalisation d'enfanter par simple désir amoureux me réjouit à chaque seconde qui passe. Je ne voulais pas d'enfant par simple désir de me reproduire. Je voulais un enfant de nous, un être que je chérirais autant que j'ai chéri mon amour pour toi », a-t-elle écrit sur son compte Instagram.
I was walking along, minding my business, when out of an orange-colored sky, flash, bang, alakazam, wonderful. I was humming a tune, drinking in sunshine, went out of that orange-colored view. Flash, bang, alakazam, I got a look at you. One look and I yelled, timber, watch out for flying glass. 'Cause the ceiling fell in, the bottom fell out, I went into a spin, I started to shout, I've been hit.
This is it. This is it,
I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
Flash, bam, alakazam,
out of an orange-colored sky. Thank you.
one look and I yell timber. Watch out for flying glass. 'Cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout, I've been hit.
This is it, this is it, I-T it.
I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
Flash, bam,
alakazam. Out of an orange colored purple stripe, a pretty green polka dot sky.
Flash, a bam,
alakazam, and goodbye. Wow, I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
Et voilà Nat King Cole et sa chanson Orange Colored Sky.
Sujet libre, je vous avais lu la chronique « Une décision d'assureur » de Patrick Lagacé, numéro 1, mais je ne savais pas qu'il y aurait une suite, il y en a une, et c'est ce matin que c'est à la une de la presse, donc « Une décision d'assureur », entre parenthèses, 2. Samuel Archibald a ouvert une brèche dans un barrage de douleur quand il a dénoncé son assureur Desjardins dans la Presse Plus dimanche. Il a libéré une parole. J'ai chroniqué le lendemain sur le bras de fer absurde qu'il mène face à Desjardins alors qu'il souffre d'une dépression. Un torrent en réaction. J'ai reçu au bas mot 200 courriels dans les jours qui ont suivi, autant de témoignages qui disaient « moi aussi ». Il disait « moi aussi j'ai dû me battre contre mon assureur, monsieur le chroniqueur ». Il disait « je me reconnais tellement dans ce que Samuel Archibald a écrit ». Ils m'ont raconter les prétextes farfelus invoqués par les assureurs pour leur refuser une indemnisation. Ils m'ont raconté les appels incessants de l'assureur sous prétexte de prendre des nouvelles, une tactique qui ressemble plus à des pièges tendus aux assurés. Diane C. À tous les 15 du mois, je recevais un appel de ma gestionnaire de cas. Elle me demandait quand je revenais de travail, quand je revenais travailler, comment j'allais. Je savais que tout ce que je disais pouvait être retenu contre moi, que si je disais que j'allais mieux, on allait me couper. Diane C. avait raison d'être parano. Ce genre d'appel est conçu, selon les témoignages recueillis, pour utiliser les mots de l'assuré contre l'assuré. Ève C., en congé de maladie pour burn-out, l'a vécu à ses dépens. J'ai fait l'erreur de leur dire que je prenais un nouveau médicament qui me faisait du bien, qui me donnait de l'énergie. La gaffe. Gaffe? L'employé de l'assureur a noté qu'Ève allait bien. Or, bien, ça s'est traduit en guéri aux yeux de l'assureur. Tu vas bien, tu peux travailler. Ses prestations ont été coupées. Ève a protesté, pleuré, imploré. Rien à faire. Je ne peux pas travailler. Je suis même pas capable d'aller prendre une marche. La décision a été prise? Ai-je des recours? Porter plainte à mon supérieur. Net, fret, sec. Quand on est dans cet état-là, on n'a pas l'énergie pour se battre. Ça fait un an. Ève est retournée travailler. De corps. Elle est présente au bureau. Seulement de corps. Transiger avec un assureur peut être un voyage en absurdistan. Ne riez pas en lisant ce témoignage de Karine O. Même hospitalisée, les assurances n'ont pas voulu m'indemniser en prétextant que j'étais tout de même apte à un emploi rémunérateur. Ce à quoi j'ai répondu « Que voulez-vous que je fasse comme travail à partir d'un lit d'hôpital? Des appels érotiques? » Et l'assureur de me répondre « Ce n'est pas à moi de vous le dire, madame. » J'écrivais lundi que dans le cas de Samuel Archibald, c'est comme si l'assureur guettait, espérait un prétexte pour nier toute couverture. Les témoignages d'Ève et de Diane en recoupent plein d'autres sur les prétextes douteux invoqués par des assureurs pour nier une couverture. Les assurés se font piéger, mais leurs médecins aussi, comme Pascal L. qui m'a écrit ceci. « J'ai commis l'erreur d'écrire dans le dossier que ma patiente allait mieux quand ses idées suicidaires se sont tassées. Mais ce n'est pas parce qu'on ne pense plus à se jeter en bas d'un pont 24 heures sur 24 qu'on est prêt à travailler 40 heures par semaine. Pas grave, l'assureur a cessé les prestations d'invalidité à partir de la date où le médecin a noté ces mots dans le dossier de sa patiente. J'ai eu beau leur écrire et leur parler au téléphone pour expliquer qu'à mon avis, cette patiente n'était pas apte à retourner au travail, rien à faire. Ça m'a dégoûté profondément. Ma patiente a finalement dû les poursuivre pour obtenir un règlement à l'amiable. Prendre un avocat et poursuivre, tous y ont pensé quand l'assureur leur a dit que leur couverture était révoquée. Mais souvent, l'énergie n'y est pas. Brigitte P. travaille en ressources humaines. Elle fait de la gestion d'invalidité. Elle a eu ce conseil pour Samuel Archibald. Qu'il mette un avocat dans le dossier et Desjardins va peut-être tout d'un coup prendre une décision différente. C'est ce qui est arrivé dans le dossier de France V. Frappée par une dépression majeure, confirmée par son médecin de famille et un psychiatre payé par l'assurance maladie, l'assureur lui a refusé une couverture sur la foi d'un diagnostic divergent émis par un psychiatre, payé par l'assureur. La compagnie d'assurance l'a appelé et lui a donné 24 heures pour accepter l'offre suivante. 3 mois de prestations, offre finale, après, tu ne nous achales plus. Je ne pouvais même pas consulter mon médecin. Finalement, une amie avocate de France V a envoyé une mise en demeure à l'assureur qui a avalisé l'avis des médecins de la dame. Retour progressif. On peut dire qu'elle a gagné, mais la victoire l'a stressée au cube. Après ma chronique sur Samuel Archibald, quelques schtroumpfs à lunettes m'ont écrit pour me faire la leçon. « Ah, monsieur le chroniqueur, les gens doivent lire leur police d'assurance en détail. Je dis qu'outre les cas de grossière négligence et de fraude, il y a un bug majeur dans cette jérémiade. Je note que les assureurs ont comme la fâcheuse tendance à interpeller les dites polices comme ils le veulent. Prenez le cas de l'ingénieur forestier Ken Dubé. Devenu malade des suites de harcèlement psychologique, il a vu son assureur lui refuser des indemnités sous prétexte que l'arrêt de travail n'était pas lié à sa condition médicale, mais à des problèmes dans son milieu de travail, comme si l'un n'était pas tributaire de l'autre. Le juge a tranché en faveur de M. Dubé en novembre dernier dans une décision qui a renvoyé la compagnie d'assurance à ses devoirs, en plus de la condamner à verser 10 000 $ à son assuré. Son motif de refus, a écrit le juge Patrick Théroux, ne cadre pas avec le critère de l'invalidité que la police l'oblige à couvrir. On penserait qu'avec l'expérience et ses avocats, l'assureur saurait comment interpréter ses polices d'assurance. Non, DH n'est pas malade, son conjoint l'est, et s'est fait refuser une indemnité par l'assureur. Le bras de fer contre deux assureurs, hypothécaires et collectifs, a été épuisant, et DH a vu dans les tactiques subies par son chum une méthodologie, une approche systémique du monde de l'assurance. 5 ans que ça dure. Et la lumière, on la voit. Le bout du tunnel approche. La chance, elle est venue sous la forme d'un héritage inattendu. Ça nous a permis d'engager un avocat compétent et de poursuivre les compagnies pour bris de contrat, dit DH dans son témoignage. Un règlement approche, dit-il, et c'est pourquoi DH ne me dit pas le nom des compagnies d'assurance impliquées. Jean T. de Trois-Rivières garde un mauvais souvenir des demandes de son assureur pour des expertises et des formulaires à faire remplir par des médecins, un job à temps plein. J'ai dû passer par l'ombudsman de la compagnie d'assurance pour établir les faits. Il s'est donc battu en pleine dépression. Diane C. a cette formule terrible pour décrire le bras de fer qu'elle a livré à l'assureur, de chèques coupés en appel, en invalidité niée, en appel répété de la gentille dame de l'assureur. Faut être aussi performant dans la maladie que dans le travail. Ce ne sont que quelques cas que je vous raconte là. Il y en a d'autres, plein d'autres. Samuel Archibald est la pointe d'un iceberg de souffrance et d'injustice dont je ne soupçonnais pas l'envergure.
Thank you.
Lunch Santé de la distributrice. Une distributrice offre généralement des chips, des sandwichs et d'énormes galettes. À la gare centrale de Montréal depuis novembre, la machine Portion propose d'alléchantes salades et des parfaits en pot. Deux autres distributrices Portion sont installées à McGill, à la bibliothèque Redpath et au pavillon de sciences médicales McIntyre. C'est dans la presse, Marie Allard qui signe le texte, c'est Ryan Hotman, un entraîneur sportif qui a eu l'idée de vendre des repas santé après avoir constaté que les efforts de ses clients étaient minés par leur alimentation sur le pouce. Avec son père Aaron, il a conçu des repas nutritifs vendus en épicerie. Comme les profs étaient minces, le duo a décidé de proposer ses recettes sans intermédiaire dans des machines. Au départ, je n'étais pas chaud à l'idée des distributrices, dit Aaron Hotman, copropriétaire de Portion. Je constate maintenant qu'elles ont plein d'avantages, notamment le fait d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours des cochonneries, entre guillemets, dans ces machines, puisque ce sont des produits faits pour durer 6 mois. Comme dans tout, il faut du changement. Aujourd'hui, les gens sont prêts à y trouver des mets nutritifs servis dans des beaux pots de plastique recyclables, dit M. Hotman, copropriétaire de Portion. Comment ça marche? Une fois devant la distributrice, un grand écran permet d'explorer le menu qui comprend des salades, du chili, des petits contenants de protéines, poulet, thon, œufs durs, cuits, des collations et des parfaits au yogourt grec. Une fois son choix fait, on paye par carte et le bocal désiré tombe dans la machine. Rencontrée à la gare centrale, Manon Moras et Martine Paquin est intriguée par la distributrice. « Est-ce que c'est frais? » ont-elles demandé. « On trouve ça cute » a commenté Mme Paquin. « C'est pratique pour les gens qui vont prendre le train », a ajouté Mme Moras. « C'est fait pour être mangé dans le pot », explique Aaron Hotman. La vinaigrette est dans un petit contenant à part, ce qui fait que le client contrôle la quantité qu'il veut mettre. Il suffit d'assaisonner, de refermer le couvercle et de secouer le pot pour mélanger la vinaigrette avant de déguster. Alors, j'y reviendrai puisque la presse a testé une salade asiatique payée 9,99 $ plus taxes. Petit hic, il n'a pas été possible d'avoir un reçu par courriel et les fourchettes de plastique n'étaient pas emballées, mais il semble que c'était bon. Ils ont passé un bon moment. Ceux qui l'ont testé. Merci, c'est tout pour le quotidien des quotidiens. À venir, les paractualités. Merci, Mathieu Tessier.